ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Emmanuel Lopez, je précise parce que votre prénom, il n'y a qu'un N et un S parce que vous êtes d'origine portugaise.
Effectivement, bonjour, merci de m'accueillir dans votre émission.
Vous connaissez Radio Présence puisque vous, en tant que pasteur de l'église évangéliste du septième jour, adventiste du septième jour, pardon, vous étiez déjà venu pour faire une homélie le dimanche soir, juste avant l'émission, ma foi, j'y crois.
Oui, effectivement, dans le cadre de, je crois, de la prédication protestante.
Oui. C'est ça. Voilà, oui. Mais avant d'être pasteur, vous avez fait un chemin du Portugal vers les Pays-Bas, puis vers l'étude pour être pasteur dans le sud de la France. Vous pouvez nous dire en deux mots, s'il vous plaît.
Rapidement, oui, effectivement, je suis d'origine portugaise. Et puis, mes parents, ils ont quitté le Portugal dans les années 60 du fait de la dictature à l'époque. Donc, ils sont allés aux Pays-Bas et moi, je me suis retrouvé là-bas. Mais après, à l'adolescence, j'ai demandé à mes parents si je pouvais venir en France dans un collège en Haute-Savoie et donc je me suis retrouvé en France où j'ai commencé par apprendre le français et puis après j'ai fait mon collège, le baccalauréat bien sûr et à ce moment-là, comme tout jeune, je me demandais qu'est-ce que je voulais faire de ma vie.
Être médecin ou bien de la radio?
Oui, je vous le disais tout à l'heure, effectivement, j'ai hésité à faire des études de médecine ou faire des études dans l'audiovisuel, parce que j'ai toujours été très porté, très intéressé par tout ce qui touche à l'audiovisuel. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de radio dans le passé. À l'origine, en 1981, lorsque les radios libres ont commencé, pendant 4 ans pratiquement, j'ai fait de la radio à plein temps. Bref, mais bon, finalement, j'ai choisi de faire des études en théologie pour devenir pasteur, parce que... Écoutez, mes parents étaient de tradition catholique, étant portugais, Portugal, Espagne, l'Italie, le catholicisme, l'église chrétienne catholique est très présente. Mais bon, ils sont devenus membres de l'église adventiste dans les années 60, sans doute, je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être qu'ils ont trouvé à ce moment-là dans cette église... Je ne sais pas, peut-être plus d'études de la Bible, plus de fraternité, plus de je ne sais quoi qu'ils sont devenus adventistes. Et donc j'ai été élevé dans un foyer croyant et notamment mon père, que j'aime à mentionner souvent, et j'ose le dire, était un exemple de chrétien, quoi. Et voilà, je pourrais en dire énormément de choses, mais c'est
et pas surtout le départ du Portugal, c'est parce que c'était en même temps la colonisation, enfin le maintien de la guerre en Angola et le fait pour vous deux garçons, deux frères, de devoir faire le service militaire pendant 2 ans.
Et absolument, c'était une des raisons fondamentales pourquoi mes parents sont partis du Portugal et mon frère et moi avec. C'est qu'à l'époque, il y avait donc ces guerres en Angola, en Mozambique, en Guinée, Bissau, donc les anciennes colonies portugaises. Et si on ne partait pas du Portugal avant l'âge de 16 ans, on était enrôlé de force pour partir en guerre, effectivement. Et là, mes parents ne voulaient pas qu'on aille faire la guerre. Donc c'est une des raisons pour laquelle on est parti du Portugal. Oui, oui, oui.
Qui a dû aussi vous marquer dans le désir de sauver les corps et puis peut-être après de guérir les âmes.
Oui, 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 absolument. Si j'ai choisi, plutôt que de faire médecine, qui est déjà pas mal aussi, je veux dire, dans cette perspective
d'aider les autres,
de guérir les autres si possible, oui, j'ai choisi de faire théologie pour devenir pasteur parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la foi de mon père en particulier, mais celle de ma mère aussi, m'a beaucoup marqué dans mon enfance, bien sûr. Bien sûr.
La santé et la sainteté.
Voilà.
Alors pour ça, il faut avoir des qualifications. Donc pendant 5 ans, des études assez diverses, depuis la Bible, les pères de l'Église, l'exégèse.
Oui, alors dans notre Église, dans l'Église adventiste en France, actuellement, et depuis des années, pour être pasteur, donc dans notre Église, il faut avoir une maîtrise en théologie, donc actuellement, bac plus 5. à mon époque, parce que bon, je ne suis plus tout jeune non plus, hein, j'ai 62 ans, donc ça fait pratiquement 40 ans, 39 ans que je suis pasteur. À l'époque, j'ai fait aussi une maîtrise en théologie, mais à l'époque, c'était 4 ans. Donc j'ai fait 4 ans de théologie pour devenir pasteur. Et bien sûr, pendant ces études, ben voilà, on a fait du grec, de l'hébreu, l'histoire de l'Église, dogmatique, beaucoup de matières. Vous pensez bien qu'on peut étudier pendant 4 ans pour effectivement... Pour... Parce que quand on est pasteur, bien sûr, il y a un vécu de foi, il y a la gestion d'une communauté chrétienne, mais il y a aussi, on doit maîtriser un tant soit peu, avoir un minimum de connaissances bibliques. Et du monde biblique, et donc il ne faut pas dire n'importe quoi non plus, il faut étudier un petit peu, savoir de quoi on parle.
Alors, entre autres, pourquoi une séparation avec l'Église ou les Églises chrétiennes autour des années 1800, avec différentes personnes qui ont marqué, nous citions tout à l'heure Joseph Wolff, qui est un juif allemand converti au christianisme et qui s'est très ouvert vers l'Orient, l'Inde, et une sorte de syncrétisme. Non, il y a vraiment un désir de marquer une originalité dans la foi, dans le credo, en Jésus ressuscité.
Vous voulez dire les origines de l'Église adventiste ?
C'est ça. Puis après, on a parlé en 1801 de Manuel de Lacunza. Alors ça, c'est pour les spécialistes, mais c'est
vraiment
important de savoir la branche.
Oui, les personnes que vous venez de mentionner, oui, assurément, mais moi, je mentionnerai d'autres personnes. Et c'est vrai que l'Église adventiste du septième jour, de son nom complet, officiellement, elle est née en 1863.
Oui.
C'est à cette date-là que cette église a été déclarée en tant qu'église aux États-Unis. Mais auparavant, effectivement, c'est un mouvement... Bon, l'église adventiste est une église de la branche protestante. Nous sommes protestants.
Réformés. Alors,
voilà, donc le protestantisme est déjà...
très diversifié.
Une branche du christianisme. On ne va pas entrer dans l'histoire. Et donc, au sein du protestantisme, il y a plusieurs églises. L'église baptiste, les méthodistes, et j'en oublie. Et donc, effectivement, en 1820, 1830, 1840, il y avait en particulier un prédicateur méthodiste, de l'église méthodiste, William Miller, qui lui, ayant étudié certaines prophéties du livre de Daniel, de l'Apocalypse, etc., était arrivé à la conviction à l'époque, mais l'église adventiste n'existait pas à ce moment-là, c'était ce prédicateur méthodiste. Hein. Donc lui, il était arrivé à la conviction que Jésus allait revenir en 1844. C'est très précis. C'est très précis.
Le Messie va revenir, Messie en gloire.
Voilà, parce que c'est quand même une espérance chrétienne.
Bien sûr.
J'espère que tous les chrétiens croient, espèrent au retour du Christ, à un monde meilleur. Bon, je sais, c'est du domaine de la foi. On y croit ou on n'y croit pas. Hein. Mais bon, je pense que ça fait partie de l'ADN du christianisme. Et donc, William Miller, croyant que Jésus allait revenir au sens propre du terme, en 1844, et puis bon, finalement, ça ne s'est pas passé, rien ne s'est passé à ce moment-là, mais à ce moment-là, il y avait plusieurs milliers, enfin, quand je dis plusieurs milliers, 3, 4, 5 000 personnes qui avaient cru à cette prédication de ce prédicateur William Miller, et qu'il avait entendu, qu'il avait un petit peu suivi dans ses explications, et du coup, ces personnes-là s'étaient mis, comment dire, s'étaient fait mettre à la porte de leurs églises respectives, méthodistes, catholiques peut-être, et autres protestants.
Baptistes,
etc. Et donc, c'est ce groupe de quelques milliers, 2-3 000 personnes qui, tout d'un coup, petit à petit, ont donné naissance à l'Église adventiste, parce qu'ils ont dit, voilà, nous croyons au retour du Christ. Et ils ont donné naissance à l'Église adventiste du septième jour à partir de... Voilà.
Alors, on peut dire quand même que c'est dans un retour en gloire et en majesté. Ce n'est pas une apocalypse qui serait, comme avec cette épidémie que nous avons aujourd'hui, la collapsologie, la fin du monde avec l'enfer et les anges et les démons. Quand nous chantons nous attendons ton retour. C'est déjà peut-être aujourd'hui que le Christ vient et construit son royaume.
Bien sûr, bien sûr.
Et vous le chantez dans votre temple, dans votre église. Vous allez nous expliquer les différents temples qu'il y a déjà à Toulouse et dans la région.
D'accord.
Et nous allons entrer dans la prière qui anime vos communautés.
Tu es Dieu au milieu de nos prières, roi des cieux, souverain, sauveur et maître, ta présence.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Et ce soir, avec Emmanuel Lopez, vous êtes pasteur de l'église adventiste du 7e jour, et vous nous disiez depuis 3-5 ans à Toulouse, mais avant dans d'autres départements.
Oui, effectivement, donc ayant fait mes études en théologie en France, après je suis devenu pasteur en 1981, et j'étais succès. Bon, au départ, chez nous, les premières années, on est pasteur stagiaire, dirait-on aujourd'hui. Et puis après, donc, j'étais donc à Marseille en tant que pasteur stagiaire. Après, je suis devenu pasteur autorisé, comme nous le disons chez nous, à Périgueux pendant 6 ans. Après, je me suis retrouvé à Perpignan pendant 7 ans en tant que pasteur. Après, j'étais à Montpellier aussi, pasteur. Limoges, 8 ans, j'ai été pasteur à Nîmes aussi pendant 5 ans, et puis là maintenant ça fait 5 ans que je suis à Toulouse. Oui, oui.
C'est vous qui décidez de cette mobilité, où vous allez là où d'autres communautés vous appellent parce qu'il y a...
Alors notre église, elle est fédérée, donc c'est une fédération d'églises. Et si je puis dire, je suis employé par la fédération des églises. L'église adventiste n'est pas... Comment dire, c'est pas l'église locale qui m'emploie en tant que pasteur. Je suis employé par une fédération d'églises et donc c'est cette fédération qui place ses pasteurs dans les différentes églises. Oui, oui, oui.
Avec, on peut dire, une hiérarchie ou une sorte de, j'allais dire de contrôle, mais c'est tout le débat que parfois les catholiques reprochent ou remarquent par rapport à la vocation des pasteurs d'autres églises de dire « Ah, mais chacun, il est un peu plus libre », alors qu'il y aurait l'aspect dogmatique dans l'Église catholique. Est-ce que c'est une idée préconçue contre laquelle il faut peut-être, qu'il faut peut-être relativiser ?
Alors, si je
quand
comprends...
vous parlez de fédération.
Oui. Alors, si je comprends bien votre question, oui. Certes, notre Église, comme a priori toutes les Églises, nous avons nos convictions. Nous n'avons pas de credo propre à l'Église adventiste, mais nous avons ce que nous appelons des croyances fondamentales. Nous les avons même, à tort, enfin peut-être à tort, mis par écrit depuis une cinquantaine d'années. Donc nous avons 28 croyances fondamentales dans lesquelles nous exprimons ce en quoi nous croyons. Et bien sûr, nous croyons à ce qui fait l'essence même du christianisme. Alors, je ne vais pas les énumérer, c'est pas le moment. Mais bien sûr, nous croyons en Dieu, en la Bible, en Jésus-Christ, la mort du Christ, effectivement, qui est salutaire, etc., etc.
Et avec des fêtes qui sont célébrées en même temps que les autres églises chrétiennes, de Noël, de Pâques, de la Pentecôte.
Alors là, il y aurait des choses à dire, mais bon, je ne sais pas si vous voulez courir dans le détail. Nous, n'est pas très, comment dire, on n'a pas de calendrier de fêtes. Et puis, bien sûr, il y a ces grandes fêtes que vous venez de mentionner. C'est une joie pour les chrétiens de les fêter, de se rappeler ce qu'elles évoquent. Mais on n'a pas de calendrier qu'on suit. Voilà.
Aussi rigoureux.
Oui, mais peut-être
que...
pour revenir juste à votre question juste précédemment, oui, nous avons des convictions. Notre Église, qui est une Église mondiale, a des convictions. Et évidemment, en tant que pasteur, en tant que croyant adventiste, j'y crois ou j'y crois. C'est normal que j'y croie et que je défende les convictions de l'Église adventiste. Cela dit, et c'est très important, nous avons, nous tenons vraiment, nous affirmons avec force la liberté, le libre choix, la possibilité d'exprimer notre foi, parfois avec des nuances qui peuvent être les nôtres, la mienne et peut-être pas celle tout à fait de mon frère, même qui fait partie de mon Église, mais bon, à condition qu'on ne soit pas totalement à l'opposé non plus, mais je veux dire, on ne demande pas non plus à nos, on ne demande pas absolument pas à nos membres d'église de penser tous pareil de manière carrée. Je veux pas voir dépasser un poil. Non, non. La liberté que Dieu nous a donnée à chacun, le libre choix, est importante et il faut la respecter. Il faut nous enrichir et nous réjouir de nos différences.
C'est ça. Voilà. Je voulais dire la liberté de conscience dans le respect de l'ordre public
et
la dignité des personnes. Ça veut dire déjà peut-être, sûrement, la laïcité en tant que vous la définiriez dans notre société.
En France, la séparation de l'Église et de l'État, elle fait partie de la culture française. Et moi, je pense que c'est quelque chose de biblique, enfin, pour faire simple. Hein. Jésus a bien dit à un moment donné, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il a bien reconnu qu'il y a différents niveaux de vie communautaire. Et je pense que la séparation qui s'est opérée en France légalement entre l'Église et l'État est une bonne chose. Parce que ainsi on respecte chacun dans sa foi ou pas. Et la laïcité, a priori, c'est plutôt le respect de chacun. Chacun croit. Il y en a un qui croit, l'autre qui ne croit pas. Mais voilà. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est juste une phrase.
Aussi, les églises se substituent lorsque l'État est défaillant. Si on dit que oui, la sécurité sociale suffit pour la fraternité, mais vous êtes très attentif à distribuer des repas à ceux qui manquent. Et votre église, elle a vos églises ont une association.
Bien sûr, nous, notre église, comme je pense la plupart des églises chrétiennes, nous sommes très sensibles parce que l'évangile, la Bible, veut cela ou nous encourage à cela, à l'amour de l'autre, à l'écoute de l'autre, à l'aide de l'autre. Et donc, comme l'Église catholique ou bien d'autres églises, nous avons aussi, on l'appelle pas secours adventiste, comme vous appelez secours catholique, par exemple, nous l'appelons ADRA, qui en fait vient de l'anglais et qui veut dire Adventist Development and Relief Agency, qu'on peut traduire donc Agence d'aide et de développement adventiste, qui est donc, on va dire, une espèce de secours adventiste, et qui, à Toulouse, nous avons une antenne importante qui, toutes les semaines, vient en aide à 40-50 familles dont la plupart ne sont pas adventistes. Nous travaillons en collaboration avec la Banque alimentaire, etc., bien sûr. C'est important que cette aide, cette main tendue à toutes les personnes qui autour de nous peuvent avoir besoin, des besoins de tout ordre, oui.
Avec également une ouverture aux autres églises. On peut parler peut-être d'œcuménisme, mais vous disiez à Marseille, vous étiez dans la radio locale qui ouvrait la parole à toutes les églises dans un effort avec l'islam aussi et avec d'autres religions.
Avec l'islam, c'est un petit peu plus compliqué, mais oui, effectivement, quand j'ai commencé en tant que pasteur à Marseille en 81, les premières années, on avait notre propre radio, une petite radio, voilà, de basique. Et puis après, dans les troisième et quatrième années, on s'est associé effectivement avec une radio qui était, comment dire,
multiconfessionnelle.
Regardez, déjà en 1800, attendez, je ne sais plus. Ça date ça de 1918, je crois. L'Église adventiste avait déjà écrit ceci. Je vous le lis. Hein. Nous reconnaissons toute entreprise qui a pour objet d'élever le Christ aux yeux des hommes comme faisant partie du plan divin pour l'évangélisation du monde, et nous tenons en haute estime les chrétiens des autres confessions, hommes et femmes, qui sont engagés à gagner des âmes à Christ, au Christ. Ça, c'est une déclaration de l'Église adventiste qui a 100 ans.
Sans prosélytisme, c'est tout le débat entre l'affichage de sa foi, de ses convictions, comme vous venez de le dire, et je crois qu'aujourd'hui, l'Église catholique fête Saint Matthieu. Allez, dit le Seigneur, de toutes les nations, faites des disciples. Alors, voilà, nous avons aussi la vocation, nous, c'est-à-dire les chrétiens, à, comme le chant nous l'a rappelé tout à l'heure, nous attendons le retour du Christ en gloire, mais nous avons aussi l'ardente obligation de le faire dès aujourd'hui.
D'attendre et d'accueillir le Dieu, bien sûr. Ah, mais bien sûr. C'est pourquoi on va à l'Église, notamment. La raison d'être de l'Église, certains spécialistes la résument en quatre mots, c'est l'adoration, adorer Dieu, exprimer notre amour pour Dieu. C'est l'édification, on vient à l'Église aussi pour nous édifier les uns les autres, en étudiant la Bible notamment. On vient à l'Église aussi pour la compassion. Donc l'entraide et pour l'évangélisation, donc Jésus nous a appelés à être porteurs d'espérance, et absolument.
De croire en sa miséricorde. Oui. D'ailleurs, je crois que vous nous avez apporté, parce que malheureusement il faut bientôt conclure, une parole qui nous accompagne dans la journée et même dans la semaine, car nous savons que nous vivons sous le regard du Seigneur plein de miséricorde.
Oui, si vous voulez. En tout cas, merci à vous de m'avoir accueilli dans votre émission. Peut-être, effectivement, pour terminer, je pense à ce texte. Il y aurait beaucoup d'autres textes, mais bon, dans la Bible, dans le psaume 115, dans le psaume 115, à partir de verset 11, je lis ceci. « Vous qui craignez l'Éternel, » bon, moi je dirais plutôt « vous qui aimez l'Éternel, hein, « confiez-vous en l'Éternel, il est votre secours, il est votre bouclier. » L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira ceux qui le craignent, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, dit ce psaume encore, qui a fait les cieux et la terre. Bien que oui, que Dieu puisse nous bénir les uns les autres, malgré nos différences parfois de conviction, mais on a beaucoup de choses en commun entre chrétiens, même si parfois on a certaines différences. Que Dieu nous bénisse les uns les autres, c'est mon souhait en tout cas.
Merci Emmanuel pour ces paroles de paix et cette bénédiction. Merci aussi à Christophe qui a permis la réalisation de ce dialogue. À bientôt.
Merci.